Merci Patrick et bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir la Bible et si vous n'avez pas une Bible avec vous, il y en a toujours à disposition à l'entrée pour que nous puissions avoir la parole de Dieu sous les yeux et pas seulement dans nos oreilles. Une question primordiale devrait nous préoccuper. Comment avoir accès à Dieu ? Comment avoir accès à Dieu ? Question primordiale pour notre joie, pour le sens de notre vie, que notre vie ait du sens, pour notre éternité. Comment pouvons-nous avoir accès à Dieu ? Pourtant, même si cette question est primordiale, il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas beaucoup à cette question. Je pense que beaucoup de gens présument que bon, finalement, Dieu ne sera pas si exigeant. Et donc, si je veux m'approcher de Dieu, je m'approche de lui. Ou, s'ils ont fait l'un ou l'autre rite, peut-être qu'ils ont, ils sont passés par une église ou l'autre, à un moment, ils ont dit, ben voilà, à cause de tel rite que j'ai accompli, c'est bon, je peux avoir accès à Dieu. D'autres cherchent plutôt accès à quelqu'un d'autre. Récemment, lorsque Beyoncé a fait un concert ici à Bruxelles, des gens ont déboursé une fortune pour pouvoir, pas la rencontrer, mais simplement être dans le stade, là où elle allait chanter. D'autres payent beaucoup pour avoir accès aux plus grands sportifs, être là au match de tennis prestigieux, au match de football prestigieux. Mais tout cela ne nous apporte rien. Ça ne change pas notre vie. On a fait tant d'efforts pour avoir accès à quelqu'un, mais on n'a pas trouvé comment avoir accès à Dieu. Et c'est pourtant beaucoup plus important d'avoir accès à Dieu. Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, on va lire cela ensemble. Jean chapitre 14, on continue à écouter les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Et je vais prier avant de lire. Père Céleste, nous te remercions parce que Jésus, effectivement, rend notre âme contente. C'est en lui qu'est notre joie, notre plaisir. Et ce matin, nous sommes heureux de pouvoir te connaître. Pourtant, cette question d'accès à toi est tellement importante. Nous voulons te prier que tu nous permettes d'avoir les yeux ouverts sur ces choses qui sont invisibles, spirituelles, que nous percevons seulement par la foi, mais que les yeux de notre cœur soient ouverts pour que nous puissions considérer ce qui a vraiment de la gloire, de la valeur, ce qui est digne d'honneur et de gloire, de louange. Te prions, Seigneur, de nous conduire, de nous fortifier également, surtout de nous parler, et que nous puissions dire « Oui, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Quelle parole, n'est-ce pas, de Jésus, celle qui a donné le titre à notre série de prédications actuelle. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a tant de gens qui sont troublés aujourd'hui, et tant de raisons d'être troublés. L'inégalité entre personnes dans le monde, entre les riches et les pauvres, entre différentes classes de personnes. Le coût de la vie qui peut tellement nous préoccuper, nous inquiéter. Les choix qui sont devant nous. Comment choisir? Qu'est-ce que nous allons faire de notre vie avec le temps que Dieu nous a donné sur terre? Tout cela peut nous troubler. C'est une bonne parole pour nous aujourd'hui face à la guerre en Ukraine et bien autre chose. Mais en fait, à la base, c'est une parole pour eux. Que votre cœur ne se trouble pas. Les disciples qui entendaient cela venaient juste d'entendre, n'oublions pas la semaine passée, que Jésus allait être trahi, que l'un d'eux allait le trahir, qu'un autre parmi eux allait renier Jésus. Ils étaient troublés par cette révélation. Ils étaient aussi troublés parce que dans leur pensée, le fait que Jésus soit trahi semblait contredire le fait qu'il soit Messie. Comment est-ce possible d'être Messie si on est aussi trahi? Et puis il avait annoncé quelque chose de très troublant. Chapitre 13, nous lisons ce qu'il vient de leur dire dans cette même conversation, dans ce même discours. Il dit au verset 33, « Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Donc la situation qu'il leur annonce va s'empirer. Elle ne sera pas celle qu'ils ont connue, où ils étaient ensemble, heureux d'être dans l'entourage de Jésus. Ils ne vont pas pouvoir aller là où il part. Il part de son départ et il va être inaccessible. Et donc, ils avaient le sentiment qu'ils allaient tout perdre. Et ils étaient troublés. Mais Jésus leur dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, verset 1. » C'est-à-dire, continuez à croire en lui. Et croyez aussi en moi, dit Jésus. Et Jésus va donner des raisons. Pourquoi il est possible de ne pas être inquiet? Jésus n'est pas de ceux qui disent simplement des choses optimistes. Peut-être que vous avez un ami comme ça qui est optimiste. Et quand vous partagez un problème avec cet ami, il dit « Oh, ça va aller. Bah, tu vas voir. On va s'en sortir. Tout ira bien. » Alors c'est sympa. Mais c'est juste de l'optimisme. Alors tu dis « Mais pourquoi ? Moi je suis malade. Moi j'ai une dette. J'ai perdu mon boulot. Comment tu peux me dire que ça va aller ? Comment est-ce que tu peux avoir cet optimisme comme ça ? Il faut des raisons pour espérer, n'est-ce pas ? Et Jésus n'est pas simplement en train de donner un discours optimiste en disant « Les gars, ça va aller. » Il va leur donner des raisons pour lesquelles ils ne doivent pas être troublés. Des raisons d'avoir confiance en Dieu. Et surtout la perspective d'avoir accès à Dieu qui fait que la paix de Dieu peut être dans notre cœur. La paix intérieure. Et donc ce matin, si vous n'êtes pas sûr de qui est Jésus, c'est bien possible que vous soyez là en visite ou juste en train de vous poser la question, mais qui est Jésus? Mon désir, c'est qu'aujourd'hui vous puissiez saisir qui il est en l'écoutant. Mais si vous avez déjà mis votre confiance en Jésus, ma prière est que vous puissiez continuer à croire en lui, parce que c'est ce qu'il a voulu, continuer à croire en Dieu et aussi en moi. On pose la question, comment avoir accès à Dieu? Et la réponse, je vous l'annonce déjà, la réponse c'est, tout dépend de qui vous connaissez. Tout dépend de qui vous connaissez. Trois questions. Vous connaissez Jésus ? Il est le chemin vers le Père. Vous connaissez Jésus ? Il est le chemin vers le Père. Ça, c'est la première partie. Jésus parle du fait qu'il va disparaître, il sera mis à mort, il ressuscitera, il ira au ciel, et il ne sera plus là, parmi eux, sur la terre. Un grand ajustement pour ses disciples qui l'aimaient, qui l'avaient vu. Mais Jésus les rassure, je ne pars pas pour toujours. N'est-ce pas que ça diminue fortement, n'est-ce pas, la peine d'une séparation lorsque nous savons que nous allons revoir la personne qui nous quitte. Lorsque j'étais fiancé avec Éléonore, je me souviens des moments pénibles de au revoir à l'aéroport, où on devait se quitter. Et c'était triste parce qu'on voulait juste être ensemble. Mais on se disait, ne t'inquiète pas, dans 3 semaines on va se revoir, on se revoit dans 4 semaines, hein, on sera à nouveau ensemble. On avait hâte de se revoir. Et quand quelqu'un meurt, n'est-ce pas pareil? C'est la fin, mais on est consolé parce qu'on dit on se reverra. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, on se reverra », mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mais quand c'est vrai, c'est vraiment une consolation. Et Jésus est en train de dire « Oui, je pars, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Je pars, mais il y a de la place pour eux. Il va préparer une place. » Cette place est préparée. Ce n'est pas une phrase littérale, mais c'est une façon d'exprimer combien nous sommes les bienvenus là dans la maison du Père, dans la demeure de Dieu. Donc nous ne devons pas imaginer Jésus en train de peindre les murs, ou de mettre des rideaux, etc., de préparer une maison comme nous préparons nos maisons pour notre logement éternel. Mais plutôt, il meurt pour que nous ayons une place au ciel. C'est ainsi qu'il prépare notre place. Si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas de place pour nous au ciel, parce que nous serions perdus dans nos fautes et nos péchés, nous serions en échec. Nous serions morts en tant qu'ennemis de Dieu. Mais au lieu de cela, Jésus, dans sa grande bonté, veut que nous puissions trouver la vie et le pardon et être amis avec lui, afin que là où je suis, dit Jésus, vous y soyez aussi. On comprend que c'est là l'essentiel d'une relation, c'est être ensemble. Vous le savez tous, c'est très difficile de maintenir une relation d'amitié avec quelqu'un quand on ne le voit plus, quand ils sont au loin, peut-être ils ont déménagé ou on ne les voit plus. Normalement, on veut se revoir pour continuer à être amis. C'est ce que Jésus veut pour nous en tant que ses amis. Il veut que nous puissions être là avec lui. On parle du paradis. Jésus dit que vous savez comment y aller. Mais Thomas, un des disciples, a une question. Et c'est une question tout à fait logique, tout à fait raisonnable. Thomas n'est pas un homme qui doute, n'est-ce pas? C'est un homme qui n'était pas là quand Jésus est ressuscité. Alors il a eu une mauvaise réputation parce qu'on dit il a douté, Thomas. Mais non, il est simplement quelqu'un qui est raisonnable et qui réfléchit. Alors il dit « Seigneur, tu ne nous as pas dit où tu vas ?» Et donc, on ne sait pas comment y aller. Est-ce que c'est Nazareth, où tu vas? Est-ce que c'est Bethléem? Est-ce que c'est Béthanie? Dis-nous où tu vas, et puis on saura comment y aller. Si Jésus s'enfuit pour se cacher, ce qui est logique, parce qu'il y a des ennemis qui l'entourent à Jérusalem, alors Thomas voudrait savoir le lieu du rendez-vous et comment y aller, pour le rejoindre avec les disciples. Mais Jésus parle d'aller autre part. Il parle d'aller dans la présence de Dieu le Père. Et il n'y a qu'un chemin pour aller là, c'est Jésus. Et donc au verset 6, cette grande déclaration, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Le chemin. Vous savez qu'au début du christianisme, dans le livre des Actes, parfois, on parle du christianisme simplement en utilisant ce mot, « le chemin ». Des personnes qui suivait le chemin. Parce que connaître Jésus est la clé pour trouver l'accès à Dieu. L'idée n'est pas de cheminer avec Jésus, mais de trouver en lui la porte d'accès à Dieu. Il est aussi la vérité. parce qu'il dit la vérité. Tout ce qu'il dit sur Dieu est vrai, et il est lui-même en train de révéler vraiment Dieu envers notre humanité. Et la vie, parce qu'en lui se trouve la vie, pour que nous ne soyons pas morts éternellement, mais vivants éternellement avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen de venir au ciel, au Père, seulement en connaissant Jésus. C'est ça la clé. On voit aussi, quand il dit cela, combien tout cela est personnel. Il est possible que vous ayez une amie qui s'intéresse aux différentes religions et qui te dit, en fait, moi, j'ai trouvé un chemin spirituel. Le matin, je réfléchis à des vérités. Je me dis certaines propositions, certaines phrases. Ou je médite et je médite à la vie ou ma vie. Que de la méditation de pleine conscience. Nous allons dire non pas un chemin, des vérités, une vie. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Jésus prend la place de toutes ces propositions abstraites et fausses parce qu'il est vrai. Et comme il le dit au verset 3, ce qu'il veut pour nous, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand nous pensons au paradis, c'est parfois difficile à imaginer. C'est parfois dur d'imaginer à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on va y connaître beaucoup de gens? Peut-être qu'on se dit, mais je ne connaîtrai pas beaucoup de personnes là au paradis pour toujours. Peut-être qu'on imagine que c'est une genre de réunion du dimanche matin qui est sans fin, sans jamais la pause café ou le repas de midi après. On se dit, mais est-ce que ça va vraiment être comme ça? Alors la Bible nous encourage à penser principalement à un aspect par rapport à la résurrection. Le fait d'être pris par le Seigneur, Paul écrit cela en 1 Thessaloniciens 4, verset 17, il dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il dit après, encouragez donc les uns les autres par ces paroles. Voilà le réconfort biblique, voilà notre espérance, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ézéchiel, quand il a une vision de ses demeures éternelles, la ville nouvelle de Jérusalem, il termine son livre en déclarant simplement le nom de la ville. Et il dit, l'Éternel est ici. Quel beau résumé de la ville, la nouvelle Jérusalem, où nous sommes invités. L'Éternel est ici. Dieu veut que là où il est, vous soyez aussi. Et lorsque nous serons là, au-delà de notre joie de ne plus avoir mal au dos, de ne plus avoir de cancer, du fait qu'il fera toujours beau, qu'on mangera comme dans les meilleurs restos de Bruxelles, on reverra nos frères et sœurs dans la foi, mais le meilleur sera de dire « Je suis dans la présence du Seigneur, je suis dans sa présence et je veux y rester pour toujours ». Vous connaissez Jésus, il est le chemin au Père. Vous connaissez le Père, il est inséparable de Jésus. Le verset 7 et suivant, vous connaissez le Père, il est inséparable de Jésus. Jésus dit, vous le connaissez, verset 7 à ses disciples. Et donc Philippe, un autre disciple, dit, alors j'aimerais avoir une expérience, j'aimerais une sorte de révélation, un moment comme Moïse ou Abraham l'ont vécu, où Dieu apparaît et on le voit. Oh, on aimerait tellement que Dieu se manifeste de cette manière-là, qu'on puisse le voir. Et Jésus répond, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Alors, je sais qu'il y a des familles où les enfants ne ressemblent pas du tout à leurs parents. Le papa est vraiment quelqu'un de génial. L'enfant est une terreur. Ou peut-être c'est inversement. Le fils est génial, le papa, oh là là, il est grincheux. Et on voit vraiment la différence entre le Père et le Fils. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On est face à la Trinité. Et ça veut dire qu'ils sont trois en un, ils sont unis profondément. Et donc, le Père et le Fils ne sont pas deux êtres différents avec leur propre caractère et leur propre projet et leur définition, mais on peut dire que Dieu le Fils et Dieu le Père sont identiques, de sorte qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Si vous connaissez le Fils, il est l'image du Dieu invisible, vous connaissez Dieu. Et si ces questions vous dérangent, on peut bien comprendre, en lisant ces versets, en comprenant Dieu lorsqu'il dit « le Père ». Parce que « le Père », c'était l'expression qu'il utilisait pour parler de Dieu. Regardez cela. Si on comprend cela en disant « le Père », « celui qui m'a vu a vu Dieu ». Comment peux-tu dire « montre-nous Dieu ». Ne crois-tu pas que je suis en Dieu et que Dieu est en moi ? C'est Dieu qui vit en moi qui fait les mêmes œuvres. Croyez-moi, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Alors, ce n'est pas exactement ce que Dieu est Jésus est en train de dire. Mais ça nous montre qu'il est en train d'expliquer la relation entre le Père et le Fils divin. Et il est aussi en train de dire qu'il est Dieu. Que ses œuvres, ses miracles prouvent qu'il est Dieu. Et il n'agit pas de manière indépendante. Ce serait faux de dire que Dieu était au ciel et puis le Fils était là sur terre en train d'opérer le salut. Jésus ne parle pas sans que Dieu soit impliqué, Dieu le Père soit impliqué. Jésus ne parle pas de manière indépendante, il dit au verset 10. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Donc les paroles du Fils sont les œuvres du Père ensemble. Alors après cela, il va encourager les disciples à continuer. Au verset 12 et suivant, il dit ils vont continuer en parlant de prière, des œuvres, de l'obéissance. Il veut préparer ses disciples. C'est un aspect clé de ce discours qui a lieu sur plusieurs versets, plusieurs sections de notre série. C'est que Jésus veut préparer les disciples à la vie d'après, à la vie d'après la Pentecôte. Comment vont-ils vivre ? Et alors, ils vont vivre comme nous. Eux ont un avantage énorme sur nous. Ils ont vu Jésus, ils ont accompagné Jésus pendant ces 3 ans. Ils ont vu les miracles, ils ont entendu Jésus, ils ont touché, vu Jésus. Mais nous avons l'avantage de ce domaine, de savoir ce que c'est la vie chrétienne, par la foi et non par la vue. Nous connaissons la vie par l'esprit, c'est tout ce que nous connaissons, n'est-ce pas, en tant que chrétiens. Et donc, nous savons déjà le mode de vie que eux, les disciples, devaient apprendre, les 11 disciples, pardon, devaient apprendre à avoir. Que dit-il alors pour eux et pour nous ? Il dit 3 choses. D'abord, il y aura une continuité avec les œuvres, mais ce sera encore plus grand. Il dit, vous ferez des œuvres plus grandes, verset 12. On pense à l'évangélisation des nations. Lorsque Jésus était là en train d'annoncer la bonne nouvelle, il l'a fait pour quelques milliers de personnes en Israël. Mais des millions de gens maintenant entendent et connaissent la bonne nouvelle grâce à ses disciples. Et cela sera possible, regardez bien, parce que je vais vers mon Père, dit-il au verset 12. Ce ne serait pas possible si Jésus était toujours ici. Et donc, c'est pour notre bien qu'il part. Imaginons un petit peu ça. C'est un scénario. Mais imaginez que Jésus ne soit pas parti, mais qu'il était resté à Jérusalem, pour toujours, après sa résurrection. Alors, on devrait tous aller à Jérusalem pour le rencontrer. Ou peut-être qu'il ferait le tour du monde en bateau, et on dirait, voilà, il est où Jésus ? Alors on va tous là-bas, on va tous lui rendre visite. Des grandes foules iraient le rencontrer. Il y aurait des files interminables. Ce ne serait pas possible de gérer le nombre de personnes qui sont disciples de Jésus aujourd'hui. Mais avec l'Esprit de Dieu est partout. Ce qui veut dire que chaque croyant a cet accès directement à Dieu par l'Esprit. C'est pour notre bien que Jésus part. Ensuite, nous pourrons prier en son nom, demander en son nom, verset 13. Et Jésus va faire des choses selon sa volonté, pour sa gloire, lorsque nous prierons. Nous sommes invités à continuer à prier parce qu'il répondra aux prières. On pourra toujours demander des choses. Et donc Jésus est en train de dire, ne vous en faites pas, même si je pars, vous pouvez continuer à prier, vous pouvez continuer à me parler. Je vous écouterai. La relation n'est pas finie simplement parce que je serai absent. La relation continue. Vous pourrez continuer les œuvres, vous pouvez continuer à parler et vous allez continuer à m'aimer et à respecter mes commandements, verset 15. Nous apprenons sa volonté et nous la pratiquons. Et cela devrait donc informer nos prières. Lorsque nous prions, est-ce que nous prions de manière égoïste pour des choses que nous voulons ou est-ce que nous prions en conformité avec les commandements que Dieu nous a donnés pour que sa volonté puisse s'accomplir, que Jésus soit glorifié, que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. C'est à ces demandes-là qu'il veut répondre. Prions que Dieu nous rende saints, qu'il nous rende vrais, serviables, qu'il donne d'aimer notre prochain comme il nous a aimés et que nous puissions aimer Dieu et aimer Jésus. Et puis dans la dernière partie, vous connaissez l'Esprit. Vous connaissez l'Esprit, il est votre aide. Vous connaissez l'Esprit ? Ben oui, dit-il au verset 17, vous le connaissez. Jésus dit cela à ses disciples, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, mais il dit, vous le connaissez, parce que vous connaissez le Fils, vous connaissez le Père, vous connaissez l'Esprit. Le chrétien doit connaître Dieu entièrement et on ne peut pas diviser et dire, moi je connais que cet aspect-là de Dieu, le Père, ou je connais que le Fils. On connaît Dieu entièrement et donc on a accès à Dieu. Lorsque Jésus parle de l'Esprit, il est dit, verset 16, quant à moi je prierai le Père. En fait, c'est probablement mieux de dire je demanderai au Père parce que Jésus ne prie pas de la même manière que nous prions. Mais il demande au Père et Dieu envoie l'Esprit. Et l'Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il ne faudrait pas imaginer l'Esprit comme l'énergie ou comme l'électricité ou comme le vent. L'Esprit est une personne. Et c'est cette description-là qu'il a au verset qui a été lu, verset 16, un autre défenseur. Le mot qui veut dire quelqu'un qui accompagne quelqu'un dans une cour pour le défendre, mais aussi quelqu'un qui est un consolateur, un conseiller. Dieu nous l'envoie, Jésus nous l'envoie, afin qu'il reste éternellement avec vous. Quel don de la part de Dieu le Père. Quelle aide pour nous qui avons à vivre la vie chrétienne, qui est une vie de défi, une vie difficile parfois. Quelle aide d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte, on pense à cela. Dieu a envoyé son Esprit pour qu'il soit toujours avec nous. Et combien c'est merveilleux que Jésus, qui est la vérité, envoie l'Esprit de vérité pour que nous connaissions vraiment Dieu aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas dire, ah, moi, je n'étais pas là à l'époque de Jésus, donc je ne connais pas vraiment Dieu. Je n'avais pas accès à la vérité. Mais non, je peux connaître vraiment Dieu par l'Esprit de vérité qui me montre Christ et qui me permet de connaître vraiment Christ. Oui, Jésus va mourir, mais il ne va pas nous laisser orphelins. Il n'est pas mort. Jésus est notre aide au ciel aujourd'hui et l'Esprit est notre aide sur terre. Nous voyons à travers ce texte combien il est important de connaître Dieu. Connaître le Fils, il dit, vous connaissez le Père, et puis vous connaissez l'Esprit. Connaissons Dieu, et c'est ainsi que nous pouvons avoir accès à lui. Mais tout cela ne devrait pas nous laisser neutres. Où en êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Tout ce que Jésus a dit est vrai, mais beaucoup n'acceptent pas que c'est vrai. Ils disent, oh, Jésus n'est pas le chemin vers le Père, en tout cas pas le seul chemin vers le Père. Et donc, ils n'ont pas accès au Père. Ils ne connaissent pas le Père parce qu'ils ne connaissent pas le Fils. Et la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et ils ne reçoivent pas l'Esprit. L'Esprit Saint que Dieu envoie n'est reçu que par ceux qui le connaissent. Verset 17, Le monde ne peut pas l'accepter, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Alors où en êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui connaissent l'Esprit, qui ont reçu l'Esprit, ou de ceux qui sont dans le monde, dans l'Esprit du monde, en train de rejeter l'Esprit de Dieu parce que vous rejetez aussi Christ? C'est dramatique, parce que ce n'est pas simplement une question de philosophie de vie. Celui qui n'accepte pas Jésus, n'accepte pas la vérité, ne sont pas sur le chemin qui mène vers le Père, et donc ne reçoivent pas la vie qu'il y a en Dieu. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Je ne veux pas négliger cela. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Nous voulons que tout le monde l'entende. Mais elle n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui résistent à Dieu, ceux qui préfèrent leur propre idée sur Dieu et sur le monde. Ça nous est tous arrivé, je pense, de rencontrer quelqu'un et de trouver qu'il ne corresponde pas vraiment à ce qu'on imaginait de lui. On avait entendu son nom, on s'était fait une image de comment il pouvait être. Peut-être qu'on avait entendu sa voix, alors un coup de fil. Et puis on le rencontre et il dit « Ah, c'est pas du tout comme je l'avais imaginé. » C'est peut-être décevant quand ça se passe comme ça. Jésus est la vérité ultime de Dieu. Il ne cache rien. Et il est exactement ce que Dieu est. Mais c'est possible qu'il n'est pas exactement comme nous l'avons imaginé. C'est possible. Et si tel est le cas, nous avons un choix. Soit nous allons accepter ce que Jésus nous dit sur Dieu comme la vérité et dire « Tu n'es pas ce que j'imaginais, mes idées étaient fausses. Je m'étais fait un faux Dieu, une fausse image de Dieu. Maintenant, je reconnais la vérité. » Ou alors, nous continuons dans notre imagination en disant « Non, je pense que Dieu est plutôt comme ceci ou comme cela. » Et nous nous éloignons de Dieu et nous allons à notre perte. Vous voyez la différence? Quel choix et quelles conséquences? Mais si vous êtes croyant en Christ, si aujourd'hui, en lisant cela, ça vous fait chaud au cœur parce que vous pensez à ce Jésus que vous connaissez par la foi, vous avez lu dans l'Évangile, vous avez connu Christ, vous avez appris Christ, eh bien, que ce matin soit un encouragement pour vous. Vous connaissez Dieu, vous connaissez réellement Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, continuez. Vous croyez en Dieu, continuez à croire en lui. Vous croyez en Jésus, continuez à croire en lui. Même si les choses se développent dans votre vie qui ne sont pas du tout comme vous les attendiez, quels que soient les développements, entre maintenant et le moment où Jésus nous revient pour nous prendre avec lui, que nous puissions continuer à croire en Dieu et en Jésus. C'est vital. Prions. Père Céleste, nous reconnaissons en Jésus le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous amène à toi, toi notre Père. Merci pour ton Esprit qui est en nous, qui nous anime, qui nous conduit, qui nous amène sur le sentier de la vie. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que Jésus a dit aussi qu'il y avait des raisons de croire en lui. On ne croit pas aveuglement, il y a ses paroles, il y a ses œuvres, il y a des raisons de croire en lui. Et dans la paix, nous pouvons aussi apercevoir au loin ce lieu que tu as préparé pour nous, la ville où tu es, afin que nous puissions être un jour avec toi. Merci pour cette espérance. Et nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous fortifies dans notre foi aujourd'hui. Tu sais comment notre foi est éprouvée. Pourtant, nous voulons continuer à croire en toi. Nous voulons te faire confiance. Et nous voulons aussi espérer d'une espérance sûre, basée sur tes promesses, basée sur ta fiabilité, qu'un jour tu nous prendras pour être toujours avec toi. Merci pour cet encouragement. Amen.